Quand le commerce frivole, diverti par ses outils, et que ça rigole dans l'opulence du mépris. Quand dans la baraque, on s'étend sur les divans, bien loin du cloaque, où pullulent les survivants. Dans l'imaginaire qui vit, je me sens tout réjoui. Je rêve un monde qui me ravit, et je me dis. Tout le monde, il est beau, imaginons le profit.
Dans ce sixième billet, des extraits de l'article « Grandes villes et bons sentiments » signé Benoît Bréville et paru dans Le Monde diplomatique de novembre 2017, donnent un aperçu des effets de l'imagination mise au service de l'urbanisme. De Paris à Londres, de Sydney à Montréal, d'Amsterdam à New York, toutes les métropoles se veulent dynamiques, inclusives, innovantes, durables, créatives, connectées. Ainsi espère-t-elle attirer des talents, ces jeunes diplômés à fort pouvoir d'achat qui, comme à Seattle, font le bonheur des entreprises et des promoteurs immobiliers. La haine n'a pas sa place ici, peu importe d'où tu viens. Nous sommes contents que tu sois notre voisin. Tous les clients sont les bienvenus, sans distinction de race, d'origine, d'orientation sexuelle ou de religion. Plantées dans les jardins ou collées sur les vitres, parfois écrites en arabe, en espagnol ou en coréen, ces pancartes ornent de nombreuses maisons et boutiques de Seattle. En ce mois de juin 2017, période de célébration de la fierté lesbienne, gay, bi, trans et queer, LGBTQ, le drapeau arc-en-ciel est lui aussi très prisé. Présent à chaque coin de rue, il décore la devanture du magasin de chaussures Dr. Martens, qui propose une collection spéciale aux 6 couleurs, un peu plus chère que les autres. Il trône au sommet du siège de Starbucks et de la Space Needle, cette tour en forme d'aiguille surmontée d'une soucoupe volante, vestige de l'exposition universelle de 1962. Il flotte même devant la mairie, juste au-dessous de la bannière étoilée. Dans cette ville de la côte pacifique, qui a voté à 87% pour Mme Hillary Clinton en novembre 2016, puis fut à l'origine de la résistance juridique aux politiques migratoires du président Donald Trump, l'ouverture, la tolérance, la diversité sont portées comme des étendards, des emblèmes municipaux. Autant que des exigences morales, elles sont des arguments commerciaux, des leviers de croissance, des avantages comparatifs. Quand les personnes de différentes origines, de différentes expériences se côtoient dans une ville comme la nôtre, leurs idées se rencontrent, s'assemblent, s'enrichissent. Notre population est un mélange d'individus de tous horizons et c'est primordial pour notre vitalité, analyse M. Brian Surratt qui dirige le service municipal du développement économique. Si nous voulons être compétitifs, il faut attirer des talents et pour cela, nous devons être une ville ouverte, renchérit son homologue du service de l'aménagement, M. Samuel Assefa. Ce natif d'Addis Abeba, qui a étudié l'urbanisme au Massachusetts Institute of Technology, précise « Avant, les gens allaient où se trouvaient les emplois. Ford construisait une usine à Détroit, les gens s'installaient à Détroit, puis travaillaient au même endroit pendant 30, 40, 50 ans. Maintenant, les jeunes cadres choisissent d'abord la ville où ils veulent vivre et ils privilégient les milieux créatifs, tolérants, proches de la nature, avec des activités de plein air, une vie nocturne. Messieurs Surat et Assefa étayeront leur raisonnement en se référant à un même économiste, Richard Florida. Peu connu du grand public et largement décrié par ses pairs, ce professeur à l'Université de Toronto jouit depuis 15 ans d'une influence considérable auprès des décideurs locaux. Sa théorie, ressassée depuis 2002, et le succès en librairie de The Rise of the Creative Class, est assez simple. La vieille économie, industrielle, productive, extractive, est appelée à disparaître pour laisser place à une économie créative. Pour les villes, l'objectif ne serait donc plus d'attirer des entreprises, en construisant des autoroutes et des centres de conférences, en offrant des avantages fiscaux et des subventions, mais de faire venir des talents, ceux qui innovent, inventent ou, plus largement, utilisent leur capital intellectuel pour générer de la richesse. Les artistes, les ingénieurs, les journalistes, les architectes, les têtes pensantes de l'administration, les financiers, les juristes, les chercheurs, les informaticiens, les médecins, bref, des gens comme messieurs Surat et Assefa, tous deux diplômés d'universités prestigieuses et copieusement rémunérés pour leur emploi de décideur, respectivement 132 000 $ et 167 000 $ par an. Selon Richard Florida, qui n'hésite pas à compter large, la classe créative représenterait 30% de la population active américaine, mais 70% du pouvoir d'achat. Pour attirer cette crème de la crème, l'économiste propose une solution clé en main. Modeler la ville à leur image. Souvent jeunes et bien payés, cette population ne souhaiterait plus s'installer en banlieue comme les anciens cols blancs, mais priserait au contraire les centres-villes dynamiques à l'européenne, où elle peut se rendre au travail à vélo, trouver un restaurant ouvert à 3h du matin, consommer des produits équitables. Elle apprécierait en particulier la vitalité des rues, les cafés indépendants, les arts, la musique, les activités de plein air, ainsi que de vivre avec des personnes d'origine diverse. Les municipalités, désireuses de tirer leur épingle du jeu, devraient donc se plier à ces exigences et transformer leur image en construisant des pistes cyclables, des salles de concert et des musées, en luttant contre les discriminations, en finançant les universités de haut niveau, etc. Richard Florida a impacté sa théorie en parlant des 3 T du succès économique, la tolérance, le talent et la technologie. Puis, mélangeant des données disparates, proportion de couples homosexuels, d'étrangers, de minorités visibles, nombre de brevets déposés et de start-up par des diplômés, il a établi des indices, indices gays, bohème, talent, et des palmarès qu'il met à jour régulièrement pour que les villes suivent leur progrès, et qu'il a étendu à l'Europe et au Canada pour gagner de nouveaux marchés. Cette méthode a immédiatement séduit les membres de la classe créative, ravis d'être présentés comme la solution aux problèmes du pays. Les médias, les décideurs politiques, les chefs d'entreprise ont encensé Richard Florida, qui fut convié à donner des conférences aux 4 coins du monde. Chacun de ses livres, il en publia tous les 2 ans environ, permet aux professeurs de recevoir une nouvelle salve de compliments et d'invitations, si bien que ses préconisations ont fini par acquérir le statut de bonne pratique dans la compétition urbaine internationale. De Sydney à Paris, de Montréal à Berlin, toute métropole se veut désormais dynamique, innovante, intelligente, créative, durable, connectée. Depuis 15 ans, dans la guerre des talents que se livrent les villes américaines, Seattle s'est imposée comme une compétitrice redoutable. Elle fait tout pour se conformer aux 3 T. Son plan d'urbanisme autorise la reconversion des anciennes usines en bureaux clinquants pour salariés choyés, au profit desquels elle construit des pistes cyclables et favorise le développement de jardins partagés et biologiques. Elle encourage l'esprit start-up grâce au programme Start-up Seattle et au Start-up Weekend organisé chaque année à l'hôtel de ville. Elle lutte contre le racisme institutionnel avec le projet Initiative pour la justice raciale et sociale. Les entreprises participent également au combat. Dans le cadre d'un partenariat avec le Seattle Theatre Group, Starbucks donne aux jeunes artistes une scène pour briller. Amazon promeut quant à lui la diversité dans ses bureaux grâce au programme Glamazon pour la communauté LGBTQ, Women Amazon pour les femmes, Black Employee Network pour les noirs, Amazon People with Disabilities pour les handicapés, etc. Avec Amazon Warrior, même les anciens combattants ont leur programme. Les résultats sont au rendez-vous. Seattle a raflé à Austin, Texas, la 4e place du palmarès créatif 2012. Cette même année, le magazine de voyage Travel & Leisure lui a attribué le titre convoité de meilleure ville pour les hipsters devant ses voisines de la côte ouest, Portland et San Francisco. Une distinction renouvelée 4 ans plus tard par la société d'études marketing Infogroup, dont l'indice Hipsters mesure le nombre de tatoueurs, de vendeurs de vélos, de cafés indépendants, de brasseries artisanales, de friperies et de magasins de disques. Seattle est désormais, selon un mensuel local, cet endroit où les gens viennent pour innover, pour être eux-mêmes et vivre avec des personnes qui, pour la plupart, partagent leurs valeurs. Attirant des diplômés du monde entier, la ville connaît un accroissement démographique spectaculaire qui s'est encore accéléré ces dernières années. Entre juillet 2015 et juillet 2016, 21 000 personnes sont arrivées, portant le nombre d'habitants à 700 000. Année après année, l'ancienne Jet City accueille une population toujours plus diplômée, aisée, blanche et masculine. des ingénieurs, des informaticiens, des génies des algorithmes ou du marketing, des publicitaires qui travaillent à Amazon, Microsoft et Starbucks, dans les centres d'ingénierie de Google et de Facebook, ou encore dans l'une des nombreuses startups locales. Selon le dernier recensement, on comptait à Seattle 118 hommes âgés de 25 à 44 ans pour 100 femmes de la même tranche d'âge. Dans certains quartiers, comme le Central District, la part de la population noire est passée de 73% en 1970 à moins de 20%. Seattle s'est toujours défini par opposition au modèle de la Silicon Valley, où les géants de l'Internet sont, à quelques exceptions près, installés en banlieue, dans des complexes autarciques avec restaurants, coiffeurs, salles de sport et cabinets médicaux intégrés. Ici, les entreprises sont majoritairement implantées au centre de la ville, dans les anciens quartiers ouvriers et industriels. Nous avons fait le choix conscient d'investir dans le centre de Seattle, même s'il aurait été moins cher de nous installer en banlieue. Nos employés adorent être dans le cœur de la ville. 15% d'entre eux habitent dans le pâté de maison où se trouve leur bureau et 20% se rendent au travail à pied, précise le site d'Amazon dans un langage très floridien. La compagnie est si fière de son campus urbain qu'elle en propose des visites gratuites deux fois par semaine pour lesquelles il faut s'inscrire 3 mois à l'avance. Dans les quartiers voisins, autrefois habités par une population ouvrière, les grues et les tractopelles s'activent. Parcelle après parcelle, les promoteurs détruisent les dernières habitations populaires et bâtissent des complexes dont les prestations sont taillées pour une clientèle sophistiquée. Parmi les constructions les plus récentes, un immeuble dispose d'un potager sur son toit, d'un espace commun pour donner le bain aux animaux domestiques, d'une cuisine de démonstration où des chefs sont invités à montrer leur savoir-faire. Un autre propose une coopérative d'élevage de poulets biologiques, un solarium doté de hamacs, une salle de poker. Une troisième met à disposition un spa pour chiens et chats, du matériel pour brasser de la bière, un laboratoire de création pour les menuisiers en herbe. Les prix sont eux aussi créatifs. Le moindre studio dans ces bâtiments de luxe se loue 1 500 $ par mois. Jadis cantonné au quartier du centre, la spéculation immobilière s'étend au reste de la ville à mesure que la mairie modifie ses règles de zonage et autorise la construction d'immeubles dans des espaces autrefois pavillonnaires. On appelle ça la ballardisation, dit en souriant Madame Linda Melvin, une résidente du quartier Ballard, qui a donné son nom au phénomène. Les promoteurs rachètent 2 ou 3 maisons, puis ils construisent un bâtiment de 15, 20 logements qu'ils louent à prix d'or. Cela fait disparaître des espaces verts, il manque des places de stationnement, il y a des embouteillages dans les rues et cela fait grimper le marché de l'immobilier, détaille-t-elle en désignant ces nouveaux immeubles sans charme, géométriques, qui lui font penser, non sans raison, à des cubes de Lego. Nous passons devant un bâtiment à l'allure franchement carcérale, avec son alignement de petites fenêtres carrées. Les promoteurs appellent ça des micro-appartements. C'est pour loger les étudiants, les personnes seules. Ces pièces d'environ 10 mètres carrés, qui servent à la fois de chambre, de cuisine et de salle de douche, se négocient 800 à 900 $ par mois. C'est la manière la plus économique de se loger ici, à moins de dormir dans une tente plantée au milieu d'un parc, sous un pont ou à côté d'une bretelle d'autoroute, comme doivent le faire les 10 730 sans-abri de King County, un chiffre jamais atteint auparavant, en augmentation de 8% par rapport à 2016. Partout, les gens s'extasient. Oh, Seattle, ce phare éclairé du progressisme. Mais nous vivons dans une ville profondément inégalitaire. Nous ne sommes pas capables de loger nos classes populaires, les promoteurs ont leurs entrées à l'hôtel de ville et, comme s'il n'y a pas d'impôt sur le revenu dans l'État de Washington, nous avons le système fiscal le plus régressif du pays. La part du revenu des riches consacrée aux différents impôts et taxes est inférieure à celle acquittée par les pauvres, déplore M. Toby Thaler. Avocat à la retraite, ce résident du quartier Fremont, lui aussi en voie de ballardisation, milite à la gauche du Parti démocrate. Il regrette en particulier que sa ville n'impose pas une taxe d'impact aux promoteurs immobiliers, comme le font d'ailleurs la plupart des communes voisines. De nombreux groupes populaires soutiennent cette revendication. Les promoteurs ne peuvent pas seulement construire, construire et encore construire. Ils doivent payer pour les conséquences de leurs projets, financer les écoles, les transports, les routes, l'entretien des égouts, la protection contre les incendies, explique Mme Susanna Lynn, membre de l'association Seattle Fair Growth, et résidente du quartier Wallingford, récemment investie par les promoteurs. Plutôt que de fâcher les lobbies de Vulcan Real Estate, RC Hadron Co. ou City Investors LLC, qui financent abondamment leurs campagnes électorales, Les élus municipaux misent sur le Housing Affordability and Livability Agenda, surnommé la Grande Négociation. La mairie accepte de modifier son plan d'urbanisme et d'autoriser des constructions denses dans les zones pavillonnaires, satisfaisant ainsi une demande des promoteurs. En échange, ces derniers s'engagent à inclure dans leurs projets de 9 à 2% de logements abordables selon les quartiers ou à payer une taxe. Cela va permettre de construire 50 000 logements en 10 ans. L'augmentation de l'offre contiendra la montée des prix, nous assure M. Surat dans son bureau qui surplombe le quartier d'affaires de Seattle. Un avis loin d'être partagé par Mme Lynn. On reste dans la course à la croissance. La grande négociation va accroître les profits des promoteurs sans régler le problème des logements. En plus, c'est une décision qui nous a été imposée d'en haut, sans consultation. Sur les 28 membres du comité chargé d'élaborer ce plan, 18 représentaient les intérêts des promoteurs et une ceux des associations de quartier. Plus à l'est, dans l'État de Washington, dans les comtés de Grand ou d'Adams, les drapeaux en arc-en-ciel sont rares, voire inexistants, tout comme les clubs de yoga et les marchands de vinyle. Dans ces zones tant rurales qu'industrielles, où ne passent que les camions traversant les États-Unis, les électeurs ont plébiscité M. Trump comme 24 des 25 comtés les plus pauvres de l'État. D'ici, le progressisme à la mode Seattle, qui promue la diversité mais favorise un entre-soi de créatifs, qui abandonne l'industrie pour se tourner vers une société de diplômés qui prône le développement vert alors que l'économie locale dépend de l'exploitation intensive du bois et des sols, ressemble à une incongruité. Cette lecture terminée, nous laissons la parole à la rédaction pour un commentaire de clôture de cette thématique du pouvoir de l'imagination à l'imagination au pouvoir.
Cet article clôturant la thématique de l'imagination abordée jusqu'ici par divers angles d'analyse, nous vous donnons lecture, pour conclure, d'un commentaire rédigé en termes de positionnement général de la rédaction au sujet de cette même question. Voici ce texte.
L'imagination au service du progrès. L'intelligence et la raison sont des capacités mises à la disposition du genre humain pour prendre conscience de sa condition et apprendre à vivre dans son univers naturel. Il peut soit les utiliser pour s'adapter à celle-ci, ou pour s'efforcer d'y échapper, ce qu'il a plutôt fait jusqu'ici par ce qu'on appelle le principe d'évolution. Ce faisant, il a mis le principal de son intelligence et de sa raison au service d'une analyse et d'une observation de sa condition pour élaborer des raisonnements et des dispositifs susceptibles, selon lui, de l'extraire de cette condition. Ceci en vue de parvenir à une maîtrise de son environnement qui lui soit essentiellement favorable. Il y est parvenu grâce à cet exercice d'une intelligence principalement dédiée à l'utilitarisme, délaissant du même coup les limites matérielles impliquées au départ par sa condition naturelle. Il s'est détourné de ses origines qu'il a très tôt considérées sous un jour astreignant et avilissant. C'est ainsi opéré un basculement de sa spiritualité au profit de sa matérialité. Cependant, la condition humaine, justement, procède principalement de ce fragile équilibre existant entre la matière et l'esprit, l'une servant de réceptacle à l'autre et réciproquement, l'autre servant à la mobilisation d'une énergie créatrice susceptible d'assurer le maintien de la première. De fait, rompant avec les lois de cet équilibre naturel, l'être humain s'est donc progressivement dirigé vers l'unique amélioration de ses conditions d'existence matérielle, appauvrissant d'autant l'énergie qu'il consacrait à son évolution spirituelle, aussi consacrée en matière de survie par la conscience de l'être. C'est cette rupture d'équilibre qui menace actuellement l'espèce humaine. Celle-ci a fait preuve d'une remarquable ingéniosité, mais a presque totalement abandonné toute forme d'humilité. Nous sommes, semble-t-il, à l'apogée de cette arrogance qui a caractérisé jusqu'ici ce qu'on a appelé la voie de l'évolution et qui est devenue insensiblement celle unique du progrès, réduit lui-même à son échelle utilitariste et machiniste du terme.
Cependant, la voie du progrès n'a pas été à la hauteur de l'ambition de rendre l'humain plus autonome et maître de son destin par les voies de la civilisation et de la technique. La civilisation, par exemple, n'a jamais rien fait d'autre que de rendre l'être humain sans cesse plus dépendant de structures sociales qui n'ont jamais rien fait d'autre que de l'éloigner de sa condition naturelle, le rendant sans cesse plus dépendant des mégastructures et d'un environnement industriel totalement déshumanisé. Progressivement et à force de fragiliser par cette méthode, la condition humaine finit par se réduire à sa circonscription au champ de la voie du progrès, qui n'est en conséquence plus rien d'autre que la voie de sa dégénérescence, en regard d'un projet d'une évolution par la voie naturelle désormais exclue. Quant à la technique, système machiniste au service de la même doctrine, celle-ci n'a également jamais constitué l'accès pour l'être humain à une meilleure qualité de vie et à un meilleur accès à l'autonomie. Au contraire des proclamations par lesquelles il se qualifie, le machinisme n'a jamais véritablement constitué un accès à une plus grande facilité d'articuler les difficultés de l'existence matérielle de l'être humain. Les outils que le machinisme met à disposition, d'une complexité inouïe et d'une inaccessibilité de compréhension grandissante pour le commun des mortels, ne visent qu'à promouvoir des inventions superflues qui compliquent d'autant l'existence humaine par des préoccupations supplémentaires rendues nécessaires par des réaménagements incessants de l'existence quotidienne, mais aussi et surtout rendues nécessaires pour assurer les cycles de productivisme et de l'esprit de profit qui le caractérise. Ces instruments conçus pour éblouir, subjuguer et flatter la vanité humaine doivent être adoptés par la majorité pour assurer la continuité des flux de capitaux. Pour ce faire, ces outils ne constituent aucune garantie d'amélioration tangible et afin de prouver le contraire, il convient de rendre de plus en plus difficile, voire impossible, les pratiques qui précèdent l'invention technologique. Ce stade, une fois atteint, il devient dès lors possible de confirmer un fait, l'amélioration, et pour laquelle on a tout fait pour qu'elle devienne un fait réel, principalement en détruisant la réalité qui existait auparavant. On a ainsi en quelque sorte naturalisé ce qui, en fait, n'est que le résultat d'une suite de choix et de décisions clairement conditionnées par un seul objectif et le plus fréquemment d'ordre purement économique. De la même manière, d'ailleurs, la rentabilité présumée de ces outils n'est jamais avérée, mais au contraire que théoriquement construite. Car ici également, il convient de rendre plus difficile, long et onéreux, les processus qui existaient avant l'invention de la machine et que la machine est censée remplacer par un dispositif plus expéditif et rentable. Toutes les opérations de commerce de la nouveauté technologique, de l'imagination donc dans ce champ de l'activité humaine, sont authentifiées et promues par ce même discours menteur et flagorneur et ainsi l'escroquerie intellectuelle tend à devenir la nouvelle norme en matière de conduite sociale. La manipulation devient l'exemple à suivre et il importe d'y être le meilleur, d'y exceller. Car en définitive, personne n'est dupe de cette suite d'impostures mais cherche plutôt, par l'intérieur, à s'y bien positionner. La peur et la lâcheté y sont ainsi cultivées par la pression sociale et le succès de l'opération ainsi garanti.
En conclusion et en résumé, on pourrait tout aussi bien dire, parlant de la civilisation, que celle-ci enseigne à ses enfants la vertu, l'honnêteté et l'égalité dans ses manuels scolaires et philosophiques, pendant que la vie, par la pression des comportements sociaux de plus en plus déviants, leur enseigne la fourberie, le comportement déloyal et l'esprit de profit, et où le cynisme permet qu'ils perdent toute estime d'eux-mêmes dans un humour fait de honte et de culpabilités inavouées. Et c'est en se transformant ainsi en consommateurs dociles, au rôle prétendu d'utilité publique, qu'ils peuvent retrouver une impression de dignité sociale et qu'en travailleurs zélés, ils trouveront l'argent pour s'offrir une conduite morale, pour reprendre les termes d'un processus qui n'est pas sans rappeler ce enseigné par la chrétienté. C'est ainsi que l'imaginaire, au terme de ce survol elliptique, peut être envisagé comme un outil de destruction de la condition humaine, tout autant, en tous les cas, qu'au titre des lettres de noblesse que l'on conférait sa prétendue vocation humaniste et humanitaire.
À propos, une série d'émissions qui vous a été proposée sur Django tous les mardis de 19h à 19h30 environ. On vous renvoie sur notre site django.fm pour retrouver cette série de 6 émissions avec les liens et des bonus. Merci à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser ces émissions, Nicolas Favreau-Kuhn et Fabio Cataneo à la réalisation, Patrick Rion pour l'édition et les enregistrements, et une co-animation de Patrick Rion et Fabio Cataneo. Merci également à Nicole Matte-Calogianitis, Christophe Jobin, Léo Serron, Jonathan Klemp, Florence Monet, Raphaël Desplans, Nicolas Delémont et Patrick Rion pour les lectures. Enfin, merci au journal Le Monde Diplomatique pour ses précieux articles mis à disposition pour lecture radiophonique. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous cet automne pour une nouvelle série d'émissions à propos.